ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 1er juin 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau midi. Donc, notre dernière émission de la semaine, si vous nous écoutez en direct, nous sommes diffusés tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD ou @canal_M sur Twitter pour commenter l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors, qui viendra nous parler d'anxiété chez les jeunes. Avec les vacances qui s'en viennent, c'est une situation complexe pour plusieurs familles. Elle nous parlera aussi d'un programme sur l'anxiété généralisée pour les 8-12 ans qui sera lancé l'automne prochain. Elle sera dans nos studios à 12h45. On découvre aussi le karaté adapté pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et les personnes en situation de handicap moteur. Mohamed Gelassi, président de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, nous en dira plus sur les démonstrations qui seront faites au Salon international des arts martiaux les 11 et 12 juin au Palais des Congrès. En première partie d'émission, on souligne quelque chose d'important, car en son 1er juin, c'est la première journée de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroule jusqu'au 7 juin sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». On parlera un peu plus tard avec le chanteur Martin Deschamps, qui en est le porte-parole depuis 14 ans. Mais d'abord, mon premier invité est concepteur télé et chroniqueur bien connu pour sa plume remplie d'humanité. Stéphane Laporte est aussi le porte-parole du prix À part entière depuis 2012. On le joint au téléphone. Bonjour, Monsieur Laporte.
Bonjour.
Merci de nous faire une place dans votre agenda très chargé aujourd'hui.
Bien, ça me fait plaisir.
Donc, si vous aviez à nous décrire le prix À part entière?
Bien, le prix À part entière, c'est pour récompenser autant les personnes que les organisations qui contribuent à faire en sorte que les personnes handicapées sont impliquées, ont une participation sociale, sont impliquées dans la société. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est le fun. On voit beaucoup de galas là, qui récompensent des chanteurs, qui récompensent des comiques, mais c'est le fun aussi de récompenser les gens qui font en sorte que toutes les personnes ont leur place dans cette société. Puis il y en a beaucoup qui consacrent leur vie, puis le prix À part entière souligne leur œuvre.
Justement, c'est la quatrième année oui. que le prix est remis. Traditionnellement, ça se faisait justement durant la Semaine québécoise des personnes handicapées. Cette année, la période d'inscription est encore en cours et il sera remis plutôt en décembre, près de la Journée internationale des personnes handicapées.
Oui, bien, il y a deux ans aussi, en 2014 aussi, on l'a remis à l'Assemblée nationale en décembre. Donc, là, la période pour mettre en candidature, pour mettre sa candidature, ou même on peut, si on connaît quelqu'un, si on a un organisme qu'on trouve qui devrait remporter le prix À part entière, on peut mettre sa candidature. C'est jusqu'au 17 juin. On a donc au 17 juin. Après ça, il y a un jury qui va recevoir toutes ces candidatures-là qui va passer à travers pour sélectionner les gagnants. Il y a quatre catégories. Il y a la catégorie individu, organismes à but non lucratif, les municipalités, les MRC, puis aussi les ministères et leurs réseaux, les organismes publics et parapublics. Donc, il y a dans chacune des catégories, il y a un prix de 10 000 $ qui est remis pour qui est le prix À part entière.
Et faites-vous partie du jury?
Oui, je fais partie du... Il y a comme plusieurs comités là, qui vont passer à travers toutes les candidatures, mais je fais partie du jury final là, pour on va recevoir là, c'est parce que ça va de région en région, donc on va recevoir comme les meilleurs de chacune des régions. Puis je fais partie des discussions là, pour savoir qui va remporter ça.
Mm-hmm. Et donc, ce sera la quatrième année. Quel type d'initiatives sont ressorties les années dernières?
Bien, en 2014, la lauréate nationale de la catégorie individu était Mme Lisette Rioux là, du Bas-Saint-Laurent, qui est une personne qui est une éducatrice spécialisée, qui a vraiment consacré sa vie là, dans cette région à faire en sorte autant pour protéger les droits des personnes handicapées que pour faire que le transport adapté dans cette région-là soit le plus accessible possible. Donc, on a vraiment récompensé à travers Mme Rioux, vraiment quelqu'un là, qui tout un parcours, parce qu'elle, toute sa vie a été dédiée aux personnes handicapées. Il y a aussi, dans la catégorie organisme sans but lucratif, c'était la maison Amalgame de la région Chaudière-Appalaches, qui est une maison de jeunes, donc de tous les jeunes, qui a fait en sorte d'avoir une section pour les personnes handicapées, donc d'intégrer que la maison des jeunes, qu'on n'a pas besoin, qu'il n'y ait pas une autre maison juste pour les personnes handicapées, mais que ça fasse vraiment partie de la maison de tous les jeunes, mais que ça soit accessible aux personnes handicapées. Donc, je pense que c'est ça qui est important de souligner, c'est tous les efforts qui font en sorte que les gens qui ont des limites puissent quand même avoir accès à tout ce que les autres ont accès.
Justement, c'est vraiment travailler de manière concrète à l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
C'est ça.
Il y a plusieurs initiatives qui sont mises de l'avant à Ça vaut le détour. On en a parlé toute la saison. Chaque semaine, on a un peu notre prix aussi, coup de chapeau, où on met en lumière une initiative d'un individu, d'un organisme qui contribue à la participation sociale. Ces organismes-là...
C'est une très bonne initiative, parce que je pense que c'est plus qu'on en parle, c'est bon que vous faites ça, parce que ça inspire d'autres personnes à le faire aussi. Des fois, on n'y pense pas. Puis des fois, ça peut être un geste bien simple, comme quand il y a une personne en fauteuil roulant qui est accompagnée, puis que, mettons, on est quelqu'un qui travaille, qui est commis ou n'importe quoi dans le secteur public, bien, souvent, ces gens-là ont tendance à s'adresser à la personne qui pousse la chaise roulante, alors que la personne qui est en chaise roulante parce qu'elle a des problèmes moteurs, mais qui est très bien capable de parler, donc de s'adresser directement à la personne concernée. Fait que c'est tous ces petits efforts-là, bien, en récompensant ceux qui consacrent leur vie, ben ça éveille les consciences. C'est important, donc je vous dis bravo là, de le faire à chaque semaine.
Justement, ces initiatives, elles sont souvent peu connues. Il y en a plusieurs, mais elles contribuent à justement sensibiliser la population à différents enjeux. Mm-hmm. Est-ce que selon vous, votre présence dans les médias apporte quelque chose? Est-ce que selon vous, on en parle assez de ces gens-là?
C'est sûr qu'on n'en parle pas assez encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de... C'est un peu le dernier tabou, là. Je pense que les gens en situation de handicap, on n'en parle pas assez. Puis je pense que ce qui a fait avancer chacune des causes des minorités, ça a souvent été comme une espèce de mini-révolution ou de grosse révolution, là, où les gens se sont vraiment ont défendu leurs droits. Avec les personnes handicapées, c'est tellement une job au quotidien de vivre que on est comme moins organisé. Mais je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui dans l'œil du public là, sont présents, je pense à Martin Deschamps aussi, avec qui vous allez parler de la semaine des personnes handicapées, c'est sûr que ça aide. Là, qu'on faut au moins que je pense qu'on sent une responsabilité d'être la voix de tout le monde. Là. Puis moi, je sens que c'est non seulement une responsabilité, mais pour moi, c'est un devoir, puis c'est aussi un plaisir de le faire.
Mm-hmm. Stéphane Laporte, selon vous, quels sont les prochains préjugés ou obstacles auxquels il faudrait s'attaquer pour une société plus inclusive?
Bien, je pense que tout est dans le regard de la personne. Tu sais, c'est aussi fou que moi, de 0 à 5 ans, j'étais dans une famille avec beaucoup d'amour. Bon, je marchais croche, mais pour moi, c'était pas un problème. Puis c'est vraiment quand tu arrives à l'école, quand tu arrives dans la société, que là, j'ai vu que dans le regard des autres, que j'étais différent et que pour certains, c'était comme soit une source de ricanement, soit comme une espèce de peur. Donc, c'est dans le regard qu'on a envers les personnes qui ont des limites. Faut réaliser que l'être humain est capable de faire plein de choses. S'il y a une personne a un handicap, s'il y a quelque chose qu'elle est moins en état de faire, mais il y en a plein d'autres qu'elle est capable de faire. Donc, faut souvent, à cause qu'une personne a un handicap, tout de suite, on pense que là, elle est hors d'usage. Mm-hmm. Mais c'est pas du tout le cas. Là. C'est pas parce que tu as une limite que sur les autres points, t'es aussi sans limite que les autres. Là, puis je pense que c'est vraiment dans les mentalités. C'est je pense que ce qui arrête le plus les personnes handicapées, c'est pas leur handicap, c'est souvent c'est le regard des autres. T'sais. Et c'est ce regard-là qu'il faut changer.
C'est ce regard-là qui a changé. Cette semaine, justement, est propice pour créer des changements. Jusqu'à oui. Donc, si on veut soumettre une candidature pour le prix à part entière, comment on procède?
Il faut aller sur le site de l'OPHQ, là. Organisme des personnes handicapées du Québec. Et là, on a vraiment tous les renseignements puis où on peut avoir accès au formulaire, puis on peut même le faire en ligne. Donc, c'est le site de l'OPHQ là, qui est ophq.gouv.qc.ca.
Merci beaucoup. En terminant, Stéphane Laporte, qu'est-ce qu'elle signifie cette semaine, justement, qui démarre aujourd'hui?
Bien, c'est encore plus qu'on va... Je pense que c'est cette semaine-là fait en sorte qu'on parle justement des personnes handicapées, qu'elles prennent place dans la société, qu'elles ont une voix. Et tout ça va faire en sorte que justement, des fois, le regard, la peur de la différence, ben va s'amenuiser. Fait que c'est une semaine qui aide à ça.
Merci beaucoup, Stéphane Laporte, porte-parole du prix à part entière pour une quatrième année. On vous souhaite de bonnes délibérations. On est certain que vous allez avoir
des très belles candidatures. Ouais.
Très, très beaux dossiers et on continue de vous lire avec intérêt vos chroniques qui contribuent à ouvrir les esprits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci. Merci beaucoup.
Les mots sont dits déjà, si on a trop perdu de voix, à les crier sur tous les toits, on se fait du bien, on se fait du mal.
Philippe B. avec sa douce pièce reprise tirée de son album Variation Fantôme paru en 2011. Douce mélodie en ce midi à Ça vaut le détour. Et notre prochain invité, par contre, joue dans un tout autre registre. Il a dédié sa vie au rock. Martin Deschamps, bonjour.
Wow, belle présentation, j'aime ça.
Ben, elle est très vraie.
Ben, merci.
Martin Deschamps, on vous connaît parce que vous avez parcouru les scènes du Québec, vous le faites encore, on connaît votre musique, mais vous êtes aussi le porte-parole de la semaine québécoise des personnes handicapées qui commence aujourd'hui.
Oui, c'est depuis 14 ans que je porte ce flambeau et aujourd'hui, 1er juin, jusqu'au 7 juin, se tient la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et ça fait 20 ans qu'on tente d'ouvrir l'esprit des Québécois et des Québécoises et d'informer aussi les personnes handicapées de ce qu'ils ont comme ressources sous la main. Et tout ça, ben, ça se fait par le biais de rencontres, beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'OPHQ. On a plein de trucs pour poser des gestes concrets afin de bâtir une société plus inclusive.
Justement, c'est le thème de cette édition-ci en 2016, Ensemble, oui. Bâtissons une société plus inclusive. Pouvez-vous nous donner quelques exemples, justement, évoqués par l'OPHQ?
En fait, des gestes concrets, ça veut dire de venir en aide aux personnes handicapées qui ont le goût de vivre une vie à part entière, mais que juste à cause d'un obstacle comme une porte qui s'ouvre pas du bon côté ou d'un accès plus difficile ou parce qu'ils sont non-voyants, peuvent pas traverser une rue. Des gestes comme ça que les gens dans notre société en 2016 se doivent de faire. Et puis, on parle aussi, malheureusement, des ordures qui sont dans le chemin des personnes qui sont à mobilité réduite, très souvent, surtout dans les grandes villes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de beaux efforts aussi qui sont faits par beaucoup de gens qui, à chaque année, deviennent conscients de ces gestes-là à poser. Puis, ça devient une société de plus en plus inclusive. On a aussi, comment dirais-je, des façons d'informer les personnes handicapées qu'elles ont le droit, bon, au loisir, à se trouver un job. On essaie aussi d'ouvrir l'esprit des employeurs parce que c'est pas facile pour une personne qui est différente de se prouver parce qu'elle part déjà avec un jugement souvent de la part des employeurs, puis c'est pas correct. À mon avis, tout le monde a droit à son entrevue et à sa chance de se trouver une job.
Mm-hmm. Justement, il y a la semaine met l'accent sur l'employabilité, justement l'intégration à l'emploi des personnes handicapées. Vous avez un métier atypique.
Oui,
comment ça s'est passé pour vous? C'est quoi votre regard par rapport à la participation des personnes handicapées justement dans la sphère publique, dans la sphère artistique?
Ben en fait, moi, pour vous donner mon exemple, moi j'ai commencé chez Bell Canada, qui a été un précurseur dans la favorisation de l'embauche des personnes handicapées. En 1987, c'est au moment où je suis entré chez Bell. Et puis, on m'a donné ma chance. Ça a été une grande chance parce que j'ai appris c'était quoi travailler fort pour avoir une vraie job dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore une vraie job, mais c'est une job totalement différente. Mais le fait d'avoir passé justement dans des bureaux puis d'avoir un job de 8 à 4 tous les jours, ça m'a vraiment dégourdi. Ça m'a appris que c'était ça la vie. Puis il y a tout ce travail-là aussi à faire auprès des personnes handicapées qui doivent foncer, qui doivent être téméraires, disons-le, parce que c'est moins évident pour certains à chaque jour de se lever puis d'entreprendre une journée. Mais il faut le faire. Puis disons, la participation sociale d'aujourd'hui par rapport à mon métier, étant donné que mon métier a été reconnu puis que les gens apprécient mes chansons, tout ça, ça facilite beaucoup mon entrée bon, dans le monde artistique. Puis maintenant, à chaque année, on est invité partout. Puis j'ai la chance aussi de travailler avec Breen Leboeuf, qui est mon nouveau partenaire dans le projet Leboeuf des Champs. Et ça, ben, ça ouvre encore plus de portes parce que, bon, deux fois plus de visibilité, puis deux fois plus de rock and roll aussi.
Ben, évidemment, c'est jamais bien loin. Vous êtes porte-parole, donc, depuis 14 ans. C'est presque une deuxième carrière.
J'aime beaucoup faire ce rôle-là de porte-parole pour l'OPHQ parce que, bon, ils ont de l'idée. Cette année, on a des vidéos qui sont mises en place sur la chaîne YouTube de l'OPHQ et sur le site que je vous donne à l'instant, ophq.gouv.qc.ca. Justement, ce matin, j'allais voir comment c'est installé un peu tout ça dans le site web. Puis on donne des trucs pour justement se sentir moins dépaysé quand on arrive devant une personne handicapée. On donne aussi des informations sur tous les styles de personnes handicapées. Il y en a que c'est physique, il y en a que c'est au niveau intellectuel, il y en a la vue, l'audition. Tellement de différences à gérer quand même comme société, tu sais. Fait que c'est important d'en parler et de s'informer.
Vous êtes une personnalité connue depuis longtemps. On vous reconnaît pour votre talent, vos réalisations artistiques. Est-ce qu'il vous arrive encore d'être confronté à des préjugés?
Ah oui, je dirais spécialement quand je pars en voyage à l'extérieur du pays.
Où vous n'êtes pas connu.
Parce qu'ici, au Québec, j'ai la chance d'être connu et reconnu. Donc, je peux rester en rade sur le bord de la route, puis en dedans de 30 secondes, il y a quelqu'un qui est là pour m'aider. C'est vraiment une vie palpitante. Mais quand on arrive au Mexique ou aux États-Unis ou tout ça, je dois comme refaire mes preuves comme gars qui s'affirme puis comme gars qui se débrouille dans la vie. Je le fais souvent par le biais de la musique. Anecdote, quand je vais dans les hôtels, les resorts, et que j'ai la chance de monter sur scène avec le petit band qu'il y a dans l'hôtel, et c'est là que je me fais un paquet d'amis de tous les pays qui sont représentés dans la salle. La musique est mon allié, je dirais, pour bien des raisons. Mais tout ça, ça commence vraiment par la confiance en soi. Puis quand on dégage ça, ben les gens s'en rendent compte, puis c'est là qu'ils sont, disons, peut-être plus curieux de nous connaître.
Mm-hmm. Vous êtes accompagné cette année d'autres porte-paroles, les comédiens de l'émission Gang de malades.
Oui.
Parlez-nous un peu de d'eux.
Ben, en fait, j'ai eu la chance de les rencontrer lors des tournages des petits clips qu'on présente sur le site et aussi d'une session de photos qui a été vraiment tripante. Eux, ils s'amusent dans leur émission à Gang de malades justement à créer certains malaises pour ensuite en rire. Fait que c'est tout en humour, puis c'est tout en leur honneur aussi de voir que ces personnes handicapées-là ont de la dérision puis s'en servent justement pour se former leur propre carrière de comédien. Et souvent, au dépend des gens qui tombent un peu mal à l'aise, mais justement, le message est tellement clair, c'est que les malaises peuvent faire rire puis on peut passer par-dessus pour ensuite prendre ça plus légèrement.
C'est une démarche qui vous rejoint.
Aussi, oui, parce que moi, je me sers aussi beaucoup de l'humour dans ma vie en général pour dédramatiser ma situation ou la situation de d'autres personnes handicapées.
En terminant, Martin Deschamps, cette semaine qui s'amorce, avez-vous un message particulier que vous souhaitez transmettre? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous?
Ben moi, j'en profite pour lancer des défis aux personnes handicapées qui peut-être trouvent la vie difficile ou se sentent pas d'attaque pour affronter certains obstacles. Je leur dis, faut se dégourdir, faut se lever tôt, c'est le truc, et faut avoir confiance en soi. Moi, c'est le message que je lance parce que la vie est belle, puis il faut trouver le moyen de vivre sa vie entièrement. Et aux personnes qui sont pas handicapées, je leur dis la même chose. De se dégourdir puis d'avancer dans la vie.
Un message inclusif.
Oui.
Merci beaucoup, Martin Deschamps, porte-parole de la Semaine des personnes handicapées, qui a lieu jusqu'au 7 juin, plusieurs activités un peu partout au Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ça fait un grand plaisir.
Quelques petites minutes où j'accueille en studio ma collaboratrice, mon bras droit, ma recherchiste Christiane Campagna, qui est déjà venue quelques fois nous présenter des reportages. Bonjour Christiane.
Bonjour, je t'annonce officiellement que tu as un bras droit gaucher.
Je suis tout mêlée. on va y aller rapidement. Il y a beaucoup de choses qui passent dans l'actualité, qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir des entrevues. Ça passe sous le radar, mais là, aujourd'hui, on fait un petit blitz d'entrevues intéressantes, d'idées intéressantes.
Exactement. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées dans le cadre de la semaine des personnes handicapées, mais il n'y a pas nécessairement un endroit central où trouver les infos. Alors, on voulait quand même vous rappeler que c'est les journées accès découverte dont Catherine Blanchette-Dallaire est venue nous parler. Donc, ça se déroule le 2 juin à Sherbrooke, le 3 juin à Laval, le 6 juin à Montréal. Vous pouvez aller sur onroule.ca pour vous inscrire si vous voulez participer. Il y a aussi l'association Spina Bifida, à laquelle on avait parlé il y a quelques semaines, qui est dans, c'est le mois officiel aussi du Spina Bifida, en plus de la semaine des personnes handicapées. Donc, eux, ils tiennent une exposition, Spina Bifida Front to Back, qui se tiendra, elle, à l'auditoire sur le boulevard Saint-Laurent.
Qui est une salle totalement accessible.
Voilà. Et c'est présenté du 3 au 9 juin. Aussi, il va y avoir des activités à Émilie Gamelin demain, donc au Jardin Gamelin, en fait, que ça devient l'été. Et aussi une place, soulignons-le, qui est parfaitement accessible. Il y a des toilettes accessibles. Toutes les entrées de la place Émilie Gamelin, en tout temps, pas seulement pour la semaine des personnes handicapées, mais en tout temps, cet endroit est parfaitement accessible. C'est à souligner. Et demain, ce sera les activités de Tout est possible dans le cadre de la semaine québécoise. De nombreuses activités vraiment sur place. Allez sur la page Facebook de Tout est possible pour en apprendre un peu plus long. Il faudrait quand même souligner qu'une de nos collaboratrices occasionnelles, Laurence Parent, a remporté un prix, le prix Tanis Daude, qui est pour les études canadiennes sur l'incapacité et la culture. Et c'est un prix qui cherche à distinguer une personne qui ose parler de l'indicible, dit-on, tout en faisant avancer les études sur l'incapacité et la culture et qui a contribué par sa recherche, donc Laurence, et grâce à son activisme, grâce à ses recherches, à l'avancement des connaissances sur ce sujet-là.
Laurence qui fait d'ailleurs aujourd'hui, qui est le sujet d'un article de Rima El-Khoury dans la presse concernant en fait ses idées, ses opinions, mais surtout son expertise développée par rapport au capacitisme. Donc c'est un article que j'invite vraiment les auditeurs à lire qui va nous donner la couleur de cette semaine québécoise des personnes handicapées.
Oui, c'est représentatif de ce que fait Laurence, aller au-delà de « Oh mon Dieu, pauvre toi », vraiment dépasser ça. Que c'est une idée dépassée, en fait. Ça résume très bien la pensée de Laurence. Et en passant, vous allez trouver tout ça sur la page Facebook de Canalem.
Merci beaucoup, Christiane Campagna. On va aller en deuxième partie d'émission où on va parler de karaté adapté. J'ai vraiment très hâte de découvrir ça. Et aussi, Sylvie Lozon de la Fondation Les Petits Trésors sera avec nous.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour. On entame notre deuxième partie d'émission. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clé CVLD ou @canal_m sur Twitter. Et j'en parlais en début d'émission, donc on parle souvent à Ça vaut le détour de sport adapté, d'implication sociale des personnes handicapées via le sport. Aujourd'hui, on en découvre un plutôt inusité, le karaté adapté. J'ai deux invités qui seront avec moi aujourd'hui. D'abord, Nadia Samuelsen, organisatrice et vice-présidente du Salon international des arts martiaux. Bonjour.
Bonjour, Maxime.
Et on rejoint Mohamed Gelassi, président de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, ADAMA, qui va être au téléphone, va se joindre à nous durant l'entrevue. Bonjour, Monsieur Gelassi.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Super, on est ici aujourd'hui, on est tous les trois en fait, et l'objectif est de découvrir un nouveau sport adapté le karaté adapté. J'aimerais d'abord, M. Gélassi, que vous vous présentiez. Vous nous disiez comment est née l'Association de développement des arts martiaux adaptés.
L'Association de développement des arts martiaux adaptés, mieux connue sous le nom de ADAMA, a été fondée en 2012. En fait, c'était une initiative. Je suis en fait le fondateur principal, mais c'était une initiative qui est partie grâce à l'implication de parents, de jeunes avec un TSA, qui suivaient depuis à peu près 3-4 années, avant 2012, des cours de karaté adapté avec moi, mais en semi-privé. Donc, je louais la salle juste pour 2-3 jeunes. Et à un certain moment, il y avait des personnes qui, de bouche à oreille, ont su qu'il y avait des cours de karaté adaptés, ils ont vu les résultats et ils voulaient que ça soit accessible pour eux. C'est pas tout le monde qui était capable de payer ce montant, donc ADAMA est arrivé afin de vulgariser ces cours et de les rendre accessibles sur le plan financier aussi pour tout ce bon monde.
Mm-hmm. Vous avez une formation d'entraîneur en karaté?
En fait, j'ai mon brevet de PNCE niveau 3 en compétition développement. C'est l'abréviation du programme national de certification des entraîneurs, qui est une formation de l'Association canadienne des entraîneurs. Et en plus de ça, je travaille comme éducateur spécialisé et à vrai dire, de base, j'ai une maîtrise en communication et j'ai suivi à l'UQAM un master en intervention éducative auprès des élèves avec des troubles envahissant le développement.
Donc, les jeunes qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, c'était pas une clientèle nouvelle pour vous?
Pas du tout. Avant 2006, oui, parce que mon premier client, en fait, c'était dans des cours réguliers de karaté que je donnais à Maison de Jeunes, heureusement. Et j'avais un jeune avec un TSA et les parents ne voulaient pas me le dire pour de crainte qu'il se fait refuser, parce que c'était le cas. Il s'est fait refuser de 2 ou 3 autres deux jours avant d'arriver dans mes cours. Et à la fin de la session, les parents m'ont remercié et ils voulaient comme partager ça avec moi, parce que leurs jeunes, vraiment, ils étaient émus de voir leurs jeunes capables de réussir sa ceinture jaune. C'est vrai que j'ai remarqué que c'était un jeune qui était hyperactif. Il fallait mettre plus de temps et d'énergie avec lui. Mais c'est là que j'ai connu le mot autisme pour la première fois. Les parents m'ont expliqué que, entre autres, il avait beaucoup d'autres difficultés aussi, mais entre autres, ils m'ont dit que leur jeune était autiste. À l'époque, c'était TED. Il avait un trouble envahissant le développement. Et moi, j'étais intrigué et c'est de là que j'ai commencé à faire mes recherches. Et de plus en plus, je faisais des recherches, de plus en plus, j'étais intrigué et je voulais apprendre plus. Et ça m'a valu ma curiosité, une réorientation professionnelle, parce que j'ai un profil. Dans le passé, j'ai travaillé comme journaliste, mais je me suis lancé dans un diplôme d'études supérieures spécialisé à l'UQAM, spécialement pour intervenir avec des jeunes avec un TSA.
ADAMA, ce sera la première participation au Salon international des arts martiaux. Madame Samuelsen, comment c'est arrivé, ce beau mariage?
Ça a été un beau cadeau. Premièrement, je dois dire que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est atteint d'autisme, donc ça me touche personnellement. Et puis, je trouve ça remarquable qu'est-ce que M. Gélassi a fondé avec ADAMA. Et j'ai tout de suite vu l'importance de divulguer l'information puis de leur donner de la visibilité à travers notre événement, qui est un événement rassembleur pour les pratiquants d'arts martiaux, sport de combat. Et puis, on veut que les gens soient au courant que les arts martiaux, c'est fait pour tout le monde. Et puis, bien ça, ça cadrait exactement, justement, pour dire aux gens, bien, regardez, là, vous n'avez pas de mauvaise raison de ne pas faire d'arts martiaux. Il y a des gens handicapés qui en font et des gens qui ont des troubles du spectre de l'autisme, donc des gens avec des limitations physiques. C'est accessible à tous
Et puis, quand j'ai vu Adama s'est inscrit pour une démonstration, j'ai contacté M. Gélassi et puis je lui ai offert d'avoir un kiosque sur place pour leur donner le maximum de visibilité à travers l'événement. Et puis, par la suite, est venue l'idée de faire une levée de fonds, de leur donner de la visibilité aussi dans les aires d'entraînement et puis de donner une formation aussi dans le cadre du salon pour les arts martiaux adaptés.
Pour donc donner une formation à d'autres entraîneurs, les sensibiliser au fait que ça existe et que donc c'est possible. On parle de démonstration. C'est vrai que les arts martiaux, c'est on a l'image, en tout cas, ben c'est très physique à la base, mais c'est aussi très mental. Quel type de démonstration, M. Gélassi, on va retrouver au Salon international des arts martiaux?
Donc, je profite de l'occasion pour remercier Mme Nadia Samuelson. Entre autres, à date, physiquement, on ne s'est pas rencontrés jusqu'à maintenant, mais sincèrement, on s'appelle quasiment tous les jours parce qu'il y a toujours des possibilités et c'est une personne généreuse et je remercie les organisateurs du salon parce que c'est ça qui nous a permis d'explorer également des nouveaux arts martiaux adaptés tels que la boxe adaptée, le judo adapté. Donc dernièrement, Nadia nous a permis d'avoir la cage, un des emplacements au salon pour pouvoir faire également de l'initiation par rapport à ces sports. En plus de ça, il va y avoir une démonstration de karaté adapté. Pour le karaté adapté, c'est la première discipline avec laquelle on a commencé. Actuellement, Adama ne cesse pas de grandir. On vient de faire un partenariat avec Judo Québec et on a un premier dojo qui est devenu officiellement membre de Adama Judo Jekan, qui fait déjà des cours dans des écoles spécialisées comme l'école Évangeline, des cours de judo adapté. Et on essaye de travailler tous ensemble pour avancer vers l'avant.
On voit vraiment que c'est en développement. En fait, il y a plusieurs disciplines qui vont se rajouter, qui vont se développer prochainement. C'est vraiment très intéressant. Madame Samuelson, vous l'avez évoqué brièvement que cette présence au salon devient aussi l'occasion de faire une levée de fonds. Est-ce qu'on peut approfondir un peu plus l'objectif derrière cette levée de fonds?
Oui, certainement. Bien, les visiteurs auront l'occasion de déposer leurs dons au kiosque d'Adama au salon. On a aussi un autre emplacement que les gens pourront donner leurs dons à l'entrée des classes de maîtres parce que le salon regroupe plusieurs activités, dont des classes de maîtres. Dans l'exposition, il y a trois aires d'entraînement. On a le ring, la cage, le dojo, où il y aura différentes démonstrations. Et puis, il y a la scène Vidéotron qui aura des conférences et des démonstrations de plusieurs styles variés. Donc, c'est une occasion de démystifier les styles puis de découvrir tous ces styles-là. Et puis, donc, il y a deux emplacements pour les gens pour donner leurs dons. Et puis ça, ben, on est vraiment content de pouvoir donner ces emplacements-là à l'organisme, puis les aider à ramasser le plus possible, donner généreusement. C'est tellement une belle occasion là, pour...
Et M. Gélassi, justement, avec ces fonds, ce que vous souhaitez, c'est rendre plus accessibles les arts martiaux aux jeunes qui le veulent. Est-ce que c'est aussi ouvert aux adultes, les cours?
Oui, effectivement, parce que d'ailleurs, pour le cours, la classe des maîtres qu'on va donner, c'est un cours d'exploration. Il va y avoir un cours de karaté SA. Qui est un cours inspiré par l'approche de Comportemental Teach. Après, il va y avoir une initiation pour un cours handi-karaté qui cible plus une clientèle avec une limitation motrice. Et à la fin, on va faire à peu près 15-20 minutes pour les personnes neurotypiques, les visiteurs qui veulent expérimenter les difficultés que cette clientèle éprouve pour pratiquer des sports adaptés.
Quels sont les avantages pour la personne qui pratique cette activité? Est-ce qu'il y a des gains en santé? Est-ce qu'il y a, justement, on parlait de l'importance de la routine pour, entre autres, les jeunes qui vivent avec un TSA. Est-ce que vous voyez, vous, des changements chez les participants?
Ben, en fait, l'objectif, c'est de vivre des succès, mais... C'est clair qu'il faut être patient et passionné, c'est le mot d'ordre. C'est sans ça, on peut pas avancer. Donc, je vous donne comme un exemple. J'ai eu un jeune qui avait un TSA avec une déficience intellectuelle. Sa mère était impliquée avec lui et ça a pris à peu près un an parce que c'est un jeune qui est quand même assez costaud, grand, mais il est complètement inoffensif. Souvent dans l'école, quand il est dans la cour d'école, il se fait frapper. Si quelqu'un met le doigt dans ses yeux, il va pas bouger, il va pas agir, il se laisse faire. Et quasiment pour toute l'année, c'était une frustration pour sa mère parce que elle voyait son fils incapable de réagir, trop passif. Et c'est une des raisons pour laquelle elle a choisi cette activité pour lui. Ça a pris une année pour qu'un jour, un beau jour, elle est venue au début du cours avec un très beau sourire et elle m'a dit l'éducatrice de son fils lui a dit pour la première fois, François a bloqué quelqu'un qui voulait mettre le doigt dans ses yeux. Comme, elle était vraiment émue. Pour elle, ça, c'est une gigantesque réussite.
Mm-hmm.
Donc, juste pour vous expliquer que nous, on ne s'attend pas à faire des Bruce Lee ou des Jackie Chan. Nous, jeunes, avancent, puissent avoir une activité qui leur permet de socialiser, une activité qui leur permet de vivre une réussite, peu importe, même petite, même rien que de faire un blocage, rien que de pouvoir améliorer sa condition physique, rien que apprendre les quatre premiers mouvements d'un kata, ça c'est une réussite. Juste un autre cas, j'ai un autre participant en handi karaté qui a, en fait, il est sur fauteuil roulant et en plus de ça, il a des problèmes de mémoire. Donc à chaque semaine, je dois refaire avec lui les mêmes mouvements qu'on a fait la semaine d'avant. Ça fait 4 ans que je l'enseigne. Au bout de 4 ans seulement, il est capable maintenant de faire son premier kata.
Alors, on voit vraiment que la détermination, ça mène quelque part. On voit de l'accomplissement. Et comme vous le dites si bien, c'est cette idée de vivre des succès, petits et grands. On vous souhaite vraiment à vous deux un très, très beau succès pour cette première, en fait, de la présence de l'Association de développement des arts martiaux adaptés. Adama, au Salon international des arts martiaux. Je le rappelle qu'il aura lieu le 11 et 12 juin prochain au Palais des Congrès à Montréal. Merci beaucoup, Mohamed Gelassi, président de Adama, et Nadia Samuelsen, organisatrice, vice-présidente du Salon international des arts martiaux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Je te vois contempler dans la noirceur. Tu transpires l'instinct du chat. Tu défriches pour trouver la plus belle fleur. Je te vois, ah, je te vois. Je te vois dans les vifs de tes couleurs. Tu pourrais croquer le fruit des rouges. Tu joues sur la juste dose de charme et de chaleur. Je te vois. Ce soir, les oiseaux volent à hauteur d'homme, se posent à ta fenêtre et tu te donnes. Je te vois allumer toutes les chandelles, tu les fixes jusqu'à ce qu'elles t'en sorcellent. Tu valses autour de plus d'un feu de joie à la fois. Je te vois, ah, je te vois. Ce soir, les oiseaux. Je te vois découper la beauté du corps. Tu flanches au risque de ta propre petite mort. Tu jouis en silence et t'envoles sans effort. Je te vois, oh, ah, je te vois.
Chantal Archambault, que j'aime tellement, Chantal Archambault. À Hauteur d'homme, son tout dernier EP qui est paru il y a à peine quelques semaines. Donc, c'était la pièce, je ne sais pas. Ah, c'était la pièce À Hauteur d'homme, donc son premier extrait, donc tiré de l'album du même nom. On termine notre semaine avec Sylvie Lauzon. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
De la Fondation Les Petits Trésors. Oui. C'est notre dernier tour de table parce que vous êtes une de nos collaboratrices qui avait été présente tout au long de la saison.
Merci d'ailleurs de m'avoir permis de parler de santé mentale chez les enfants. On n'en parlera jamais assez. Et le jour où on n'en aura plus besoin d'en parler, ben j'espère que c'est parce qu'elles auront disparu de la surface de la planète.
Ça se peut, et c'est encore un travail, justement, qui est à faire. On parle de l'été. Pour beaucoup de personnes, finalement, l'été est à nos portes. Ça représente un branle-bas de combat chez beaucoup de familles. Il y a les vacances qui s'en viennent, plusieurs projets. Par contre, lorsqu'on a un enfant qui a un problème d'anxiété, qui vit de l'anxiété au quotidien, c'est une autre paire de manches.
Les vacances, là... C'est pas vraiment des vacances. En fait, toutes les périodes où les horaires de tout le monde changent, ça vient vraiment les rendre encore plus anxieux. Et l'anxiété, c'est un problème. En fait, je trouve que c'est la problématique de santé mentale qui est la plus... En fait, qui semble la plus anodine, pratiquement. Mais c'est aussi l'une des problématiques qui empêche vraiment le plus les gens de vivre. L'anxiété, là, on en vit tous un petit peu. T'sais, l'anxiété, en fait, c'est un stress. Il y a du stress positif. Si on n'avait pas de stress positif, on serait mort. Là. Il y a quelque chose qui nous motive à nous lever le matin puis à faire les choses. Et il y a tout le stress négatif. Et quand on parle d'anxiété, c'est une coche au-dessus. Et quand on parle de troubles anxieux, là, c'est encore pire. Il y a 25 % des enfants au Québec qui souffrent de troubles anxieux. Et c'est quoi l'anxiété? C'est une inquiétude qui est disproportionnée. En fait... Je vais reprendre ma fameuse image parce que la plus grande difficulté qu'on a, je trouve, à parler de santé mentale, c'est que c'est abstrait. Imaginez-vous votre cerveau, là, dans votre tête, il n'y a que de l'inquiétude. Ça peut se traduire de toutes sortes de façons. Ça roule. Il n'y a absolument aucun espace pour quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'espace pour voir une solution. Il n'y a pas d'espace pour penser à autre chose. Il n'y a pas d'espace à l'école pour apprendre. C'est impossible. C'est comme s'il y avait une tempête entre tes deux oreilles qui roulait 24 heures sur 24 et qu'il est pratiquement difficile d'arrêter. Je peux vous donner des exemples précis.
C'est une image très, très forte.
Ben, c'est fort. Mais mon fils est autiste. Il y a un trouble anxieux. Quand il avait 8, 9, 10 ans, ça se traduisait quand il était anxieux. Et lui, c'était de l'anxiété de séparation. Il avait tellement peur que je disparaisse de son champ de vision, pas de sa vie, de son champ de vision, qu'il pouvait, dans l'espace de 5 minutes, me poser 35 fois exactement la même question. Et ma réponse n'avait absolument aucune importance. Que je dise n'importe quoi, que je réponde pas, ça ne faisait qu'accroître son anxiété. Donc, on était tous les deux pris dans cette espèce de tempête-là dont il était très difficile de sortir. Ça finissait par s'épuiser une heure et demie plus tard. Là, on a travaillé sur des outils et ça se travaille, mais ça prend du temps. Tu sais, il n'y a pas de pilule miracle qui, après 5 minutes, fait de l'effet et tout à coup, tu n'es plus anxieux du tout. Alors, c'est ça, les enfants anxieux, c'est ça. Ils sont anxieux avec les examens qui arrivent, on a tous un petit peu une anxiété de performance. Il y en a qui vont très bien la contrôler, mais c'est qu'ils n'ont pas les outils d'adaptation, les enfants qui souffrent de troubles anxieux, pour bien s'en sortir. Alors, ils ne seront peut-être même pas capables de compléter l'examen.
Et aussi bien communiquer leurs besoins. On en a parlé
Oublie la communication des besoins dans ces moments-là. C'est épouvantable.
C'est déjà très difficile. On apprend à le faire, donc en vieillissant, et ça devient un peu plus facile.
C'est ça, on développe des outils d'adaptation parce qu'en fait, c'est une inquiétude qui prend toute la place et il faut absolument que tu apprennes à redescendre. En fait, je pense que le meilleur truc que je puisse pas donner, parce que là, les vacances s'en viennent, pour ces enfants-là, même pour des enfants qui n'ont aucune difficulté, tout à coup, de changer d'horaire, ça les indispose. Il y en a qui vont, qui vont avoir un petit temps d'adaptation pour y arriver, qui vont avoir besoin de ça. Ceux qui sont anxieux, en fait, je pense que la première chose à faire, c'est qu'en tant que parent, il faut aussi arriver à contrôler la sienne, c'est la première chose. Parce que quand on vit avec un enfant qui est anxieux et qui est anxieux souvent, et pour qui c'est un problème, on développe une espèce d'anxiété nous-mêmes. En fait, tu vis toujours avec sur les épaules. Je parle pour moi, mais je pense que ça s'adresse à pas mal de monde, avec une espèce de... En fait, tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête et tu te dis, c'est quand la prochaine crise? C'est quand la prochaine crise d'anxiété? Et ça, ça fait grimper ton niveau d'anxiété à toi aussi. Et ces enfants-là qui ont des troubles anxieux, qui ont pour la plupart un problème de santé mentale, de quelque ordre qu'il soit, c'est souvent lié aux émotions. Ils ont de la misère à réguler leurs émotions, ils ne savent pas ce qui se passe en eux. Remarquez qu'il y a bien des adultes qui ne savent pas non plus ce qui se passe en eux. Mais chez les enfants, c'est encore plus problématique.
Et c'est aussi, on peut être très réceptif, le stress se partage, malheureusement. Donc c'est ça, c'est d'abord de mettre soi-même en place des outils, un cadre pour dire voici qu'est-ce qui va se passer, comment on y va ensemble.
Et nos enfants qui ont des troubles anxieux sont des petites boules d'émotions. Alors, évidemment, ils captent tout, comme tu viens de le dire. Donc, ton anxiété comme parent peut contribuer à augmenter la leur. Mais ce qui est extraordinaire, par contre, c'est qu'on peut travailler ensemble, et le parent et l'enfant, à essayer de diminuer son anxiété. Et moi, le truc que j'ai qui m'a le plus aidé, en fait... Quand tu as un enfant qui est différent, si tu ne développes pas le sens de l'observation, tu t'en sortiras pas très bien. Alors, j'ai observé qu'avec Marc-Antoine, entre autres, quand on avait des supports visuels supplémentaires, ça l'aidait beaucoup. Pour un problème, une façon en fait de solutionner ou d'améliorer l'état général d'anxiété, c'est d'apprendre à respirer. Alors, ça a l'air niaiseux, hein? Mais
non,
je vous mets au défi de le faire tout de même.
C'est pas niaiseux.
Et c'est un entraînement. En fait, il faut que tu apprennes à respirer lorsque tu n'es pas en crise d'anxiété, lorsque tu n'as pas un trouble, un problème majeur. Tu te pratiques à respirer profondément, à diminuer ton rythme cardiaque, et tu te sers de tes mains. Moi, je me servais de mes mains comme si mes mains, c'était mes poumons. Et donc, ça rythmait la respiration. On se calmait. Et on a répété, et on le fait encore 10 ans plus tard, on répète ça. Et ce qui fait qu'à un moment donné, l'enfant, quand il sent... Et l'idée aussi, c'est que si toi, tu t'observes, tu apprends à ton enfant à s'observer, à observer ce qui se passe à l'intérieur de lui lorsqu'il est anxieux. Parce que c'est fascinant, quand tu es anxieux, quand tu as un trouble, là, et que tu es anxieux presque 90 % du temps, tu t'en aperçois pas que tu respires pas profondément, tu t'en aperçois pas que ton rythme cardiaque est trop élevé. Alors, ton enfant, tu lui apprends à reconnaître les signes, et ensuite, tu respires avec lui, il va finir par l'intégrer.
À baisser la tension aussi, même physique. Il nous reste quelques minutes qu'on aborde ce programme qui va démarrer en septembre, à l'automne, destiné aux 8-12 ans.
Ah, c'est génial. À l'hôpital, on a une clinique d'anxiété, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils pour les enfants de 8-12 ans en termes d'anxiété. Donc, c'est un outil qu'on va lancer l'automne prochain. C'est un programme pour le trouble généralisé d'anxiété chez les 8-12 ans. Ça a été développé par l'hôpital. Et il y a un bout pour les thérapeutes, un bout pour les parents, un bout pour les enfants. Là, je ne les ai pas avec moi, mais tu as des thermomètres, toutes sortes d'outils pour t'aider. Et ça va être disponible à compter de l'automne prochain. C'est important, l'anxiété. Et en plus, ce qu'on sait de la recherche, c'est que lorsque tu es anxieux jeune et que c'est un trouble, tu as encore plus de chances de continuer à l'être adulte. Alors, quand on intervient tout petit, bien, en fait, nos enfants arrivent à l'âge de 20-25 ans, puis ils sont peut-être mieux équipés pour faire face au stress de la vie, puis Dieu sait qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus gros. Alors, on va essayer de leur permettre de mieux s'en sortir à tout ce monde-là. Et les thérapeutes vont avoir un outil extraordinaire à se mettre sous la dent et à pouvoir partager avec les familles de leurs patients.
Qui va être seulement présent à l'hôpital
ou ça va être
disponible vraiment à la grandeur du Québec?
Ben, en fait, vous avez qu'à aller sur le site www.petittrésor.ca. On va vous mettre le lien, mais il y a une boutique en ligne où tu peux acheter tous ces projets-là, tous ces outils-là qu'on développe à l'hôpital.
Merci beaucoup, Fondation des petits trésors, qu'on va mettre aussi un lien sur la page de notre émission. Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation des petits trésors, merci de votre collaboration tout au long de la saison.
Ça m'a fait plaisir.
C'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie mes invités, Sylvie Lauzon, Mohamed Gelassi et Nadia Samuelsen, Martin Deschamps et Stéphane Laporte, et évidemment, Christiane Campagna, qui est notre recherchiste et aussi gestionnaire de médias sociaux.
studio. Mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. La semaine prochaine, on vous offre une programmation spéciale de coup de chapeau pour souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées. Soyez avec nous. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.